Anatole France, le jardin d'Épicure. Nous avons peine à nous figurer l'état d'esprit d'un homme d'autrefois qui croyait fermement que la Terre était le centre du monde et que tous les astres tournaient autour d'elle. Il sentait sous ses pieds s'agiter les damnés dans les flammes, et peut-être avait-il vu de ses yeux et senti par ses narines la fumée sulfureuse de l'enfer s'échappant par quelques fissures de rochers. En levant la tête, il contemplait les 12 sphères, celles des éléments qui renferment l'air et le feu, puis les sphères de la Lune, de Mercure, de Vénus, que visita Dante le vendredi saint de l'année 1300, puis celles du Soleil, de Mars, de Jupiter et de Saturne, puis le firmament incorruptible auquel les étoiles étaient suspendues comme des lampes. Et la pensée, prolongeant cette contemplation, il découvrait par-delà, avec les yeux de l'esprit, le 9e ciel où des saints furent ravis, le primum mobile ou cristallin, et enfin l'empyré, séjour des bienheureux, vers lequel, après la mort, deux anges vêtus de blanc, il en avait la ferme espérance, porterait comme un petit enfant son âme lavée par le baptême et parfumée par l'huile des derniers sacrements. Oh, ce temps-là, Dieu n'avait pas d'autres enfants que les hommes, et toute sa création était aménagée d'une façon à la fois puérile et poétique, comme une immense cathédrale. Ainsi conçu, l'univers était si simple qu'on le représentait au complet, avec sa vraie figure et son mouvement, dans certaines grandes horloges machinées et peintes. C'en est fait des 12 cieux et des planètes sous lesquelles on naissait heureux ou malheureux, jovial ou saturnien. La voûte solide du firmament est brisée. Notre œil et notre pensée se plongent dans les abîmes infinis du ciel. Au-delà des planètes, nous découvrons non plus l'empyrée des élus et des anges, mais 100 millions de soleils roulants, escortés de leurs cortèges d'obscurs satellites, invisibles pour nous. Et au milieu de cette infinité de mondes, notre soleil à nous n'est qu'une bulle de gaz et la terre une goutte de boue. Notre imagination s'irrite et s'étonne quand on nous dit que le rayon lumineux qui nous vient de l'étoile polaire était en chemin depuis un demi-siècle et que pourtant cette belle étoile est notre voisine et qu'elle est, avec Sirius et Arcturus, une des plus proches sœurs de notre soleil. Il est des étoiles que nous voyons encore dans le champ du télescope et qui sont peut-être éteintes depuis 3000 ans. Les mondes meurent puisqu'ils naissent. Il en est, il en meurt sans cesse. Et la création, toujours imparfaite, se poursuit dans d'incessantes métamorphoses. Les étoiles s'éteignent sans que nous puissions dire si ces filles de lumière en mourant ainsi ne commence point, comme planète, une existence féconde, et si les planètes elles-mêmes ne se dissolvent pas pour redevenir des étoiles. Nous savons seulement qu'il n'est pas plus de repos dans les espaces célestes que sur la Terre, et que la loi du travail et de l'effort régit l'infinité des mondes. Il y a des étoiles qui se sont éteintes sous nos yeux, d'autres vacillent comme la flamme mourante d'une bougie. Les yeux, qu'on croyait être incorruptibles, ne connaissent d'éternel que l'éternel écoulement des choses. Que la vie organique soit répandue dans tous les univers, c'est ce dont il est difficile de douter, à moins pourtant, que la vie organique ne soit qu'un accident, un malheureux hasard, survenu déplorablement dans la goutte de boue où nous sommes. Mais on croira plutôt que la vie s'est produite sur les planètes de notre système, sœur de la Terre et fille comme elle du Soleil, et qu'elle s'y est produite dans des conditions assez analogues à celles dans lesquelles elle se manifeste ici, sous des formes animales et végétales. Un bolide nous est venu du ciel contenant du carbone, et pour nous convaincre avec plus de grâce, il faudrait que les anges, qui apportèrent à Sainte Dorothée les fleurs du paradis, revinssent avec leur céleste guirlande. Mais, selon toute apparence, Mars est habitable pour des espèces d'êtres comparables aux animaux et aux plantes terrestres. Il est probable qu'étant habitable, il est habité. Tenez pour assuré qu'on s'y entre-dévore à l'heure qu'il est. L'unité de composition des étoiles est maintenant établie par l'analyse spectrale. C'est pourquoi il faut penser que les causes qui ont fait sortir la vie de notre nébuleuse l'engendrent dans tous les autres. Quand nous disons la vie, nous entendons l'activité de la substance organisée dans les conditions où nous voyons qu'elle se manifeste sur la Terre. Mais il se peut que la vie se produise aussi dans des milieux différents, à des températures très hautes ou très basses, sous des formes inconcevables. Il se peut même qu'elle se produise sous une forme éthérée, tout près de nous, dans notre atmosphère, et que nous soyons ainsi entourés d'anges que nous ne pourrons jamais connaître parce que la connaissance suppose un rapport et que, d'eux à nous, il ne saurait en exister aucun. Il se peut aussi que ces millions de soleils, joints à des milliards que nous ne voyons pas, ne forment tous ensemble qu'un globule de sang ou de lymphe dans le corps d'un animal, d'un insecte imperceptible éclos dans un monde dont nous ne pouvons concevoir la grandeur, et qui pourtant ne serait lui-même en proportion de tel autre monde qu'un grain de poussière. Il n'est pas absurde non plus de supposer que des siècles de pensée et d'intelligence vivent et meurent devant nous en une minute dans un atome. Les choses en elles-mêmes ne sont ni grandes ni petites, et quand nous trouvons que l'univers est vaste, c'est une idée toute humaine. S'il était tout à coup réduit à la dimension d'une noisette, toutes choses gardant leurs proportions, nous ne pourrions nous apercevoir en rien de ce changement. La polaire renfermée avec nous dans la noisette mettrait, comme par le passé, 50 ans à nous envoyer sa lumière. Et la Terre, devenue moins qu'un atome, serait arrosée de la même quantité de larmes et de sang qui l'abreuve aujourd'hui. Ce qui est admirable, ce n'est pas que le champ des étoiles soit si vaste, c'est que l'homme l'ait mesuré. Le christianisme a beaucoup fait pour l'amour en faisant un péché. Il exclut la femme du sacerdoce. Il la redoute, il montre combien elle est dangereuse. Il répète avec l'Ecclésiaste, « Les bras de la femme sont semblables aux filets des chasseurs, l'aqueus venatorum. » Il nous avertit de ne point mettre notre espoir en elle. « Ne vous appuyez point sur un roseau qu'agite le vent, et n'y mettez pas votre confiance, car toute chair est comme l'herbe, et sa gloire passe comme la fleur des champs. Il craint les ruses de celle qui perdit le genre humain. Toute malice est petite comparée à la malice de la femme. Brevis omnis malitia, super malitiam mulieris. Mais par la crainte qu'il en fait paraître, il la rend puissante et redoutable. Pour comprendre tout le sens de ces maximes, il faut avoir fréquenté les mystiques. Il faut avoir coulé son enfance dans une atmosphère religieuse. Il faut avoir suivi les retraites, observé les pratiques du culte. Il faut avoir lu à 12 ans ces petits livres édifiants qui ouvrent le monde surnaturel aux âmes naïves. Il faut avoir su l'histoire de saint François de Borgia contemplant le cercueil ouvert de la reine Isabelle, ou l'apparition de l'abbesse de Verbon à ses filles. Cette abbesse était morte en odeur de sainteté, et les religieuses qui avaient partagé ses travaux angéliques, la croyant au ciel, l'invoquaient dans leurs horizons. Mais elle leur apparut un jour, pâle avec des flammes attachées à sa robe. « Priez pour moi, leur dit-elle. » Du temps que j'étais vivante, joignant un jour mes mains pour la prière, je songeais qu'elles étaient belles. Et aujourd'hui, j'expie cette mauvaise pensée dans les tourments du purgatoire. Reconnaissez, mes filles, l'adorable bonté de Dieu et priez pour moi. Il y a dans ses mains ouvrages de théologie enfantine 1000 contes de cette sorte qui donnent trop de prix à la pureté pour ne pas rendre en même temps la volupté infiniment précieuse. Et en considération de leur beauté, l'Église fit d'Aspasie, de Laïs et de Cléopâtre des démons, des dames de l'enfer. Quelle gloire ! Une sainte même n'y serait pas insensible. La femme la plus modeste et la plus austère, qui ne veut ôter le repos à aucun homme, voudrait pouvoir l'ôter à tous les hommes. Son orgueil s'accommode des précautions que l'Église prend contre elle. Quand le pauvre saint Antoine lui crie « Va-t'en, bête !» cet effroi la flatte. Elle est ravie d'être plus dangereuse qu'elle ne l'eût soupçonnée. Mais ne vous flattez point, mes sœurs, vous n'avez pas paru en ce monde parfaite et armée. Vous fûtes humble à votre origine. Vos aïeuls du temps du mammouth et du grand ours ne pouvaient point sur les chausseurs des cavernes ce que vous pouvez sur nous. Vous étiez utile alors, vous étiez nécessaire, vous n'étiez pas invincible. À dire vrai, dans ces vieux âges, et pour longtemps encore, il vous manquait le charme. Alors vous ressembliez aux hommes, et les hommes ressemblaient aux bêtes. Pour faire de vous la terrible merveille que vous êtes aujourd'hui, pour devenir la cause indifférente et souveraine des sacrifices et des crimes, il vous a fallu deux choses. La civilisation, qui vous donna des voiles, et la religion, qui vous donna des scrupules. Depuis lors, c'est parfait. Vous êtes un secret et vous êtes un péché. On rêve de vous et l'on se damne pour vous. Vous inspirez le désir et la peur. La folie d'amour est entrée dans le monde. C'est un infaillible instinct qui vous incline à la piété. Vous avez bien raison d'aimer le christianisme, il a décuplé votre puissance. Connaissez-vous saint Jérôme ? À Rome et en Asie, vous lui fîtes une telle peur qu'il alla vous fuir dans un affreux désert. Là, nourri de racines crues et si brûlé par le soleil qu'il n'avait plus qu'une peau noire et collée aux os, il vous retrouvait encore. Sa solitude était pleine de vos images, plus belles encore que vous-même. Car c'est une vérité trop éprouvée des ascètes que les rêves que vous donnez sont plus séduisants, s'il est possible, que les réalités que vous pouvez offrir. Jérôme repoussait avec une égale horreur votre souvenir et votre présence. Mais il se livrait en vain aux jeûnes et aux prières. Vous emplissiez d'illusions sa vie dont il vous avait chassé. Voilà la puissance de la femme sur un saint. Je doute qu'elle soit aussi grande sur un habitué du Moulin Rouge. Prenez garde qu'un peu de votre pouvoir ne s'en aille avec la foi et que vous ne perdiez quelque chose à ne plus être un péché. Franchement, je ne crois pas que le rationalisme soit bon pour vous. À votre place, je n'aimerais guère les physiologistes qui sont indiscrets, qui vous expliquent beaucoup trop, qui disent que vous êtes malade quand nous vous croyons inspiré, et qui appellent prédominance des mouvements réflexes votre faculté sublime d'aimer et de souffrir. Ce n'est point de ce ton-là qu'on parle de vous dans la légende dorée. On vous y nomme Blanche Colombe, Lys de pureté, rose d'amour. Cela est plus agréable que d'être appelé hystérique, halluciné, cataleptique, comme on vous appelle journellement depuis que la science a triomphé. Enfin, si j'ai été de vous, j'aurais en aversion tous les émancipateurs qui veulent faire de vous les égales de l'homme. Ils vous poussent à déchoir. La belle affaire pour vous d'égaler un avocat ou un pharmacien. Prenez garde. Déjà, vous avez dépouillé quelques parcelles de votre mystère et de votre charme. Tout n'est pas perdu. On se bat, on se ruine, on se suicide encore pour vous. Mais les jeunes gens, assis dans les tramways, vous laissent debout sur la plateforme. Votre culte se meurt avec les vieux cultes. Les joueurs jouent comme les amoureux aiment, comme les ivrognes boivent nécessairement, aveuglément, sous l'empire d'une force irrésistible. Il est des êtres voués au jeu comme il est des êtres voués à l'amour. Et qui donc a inventé l'histoire de ces deux matelots possédés de la fureur du jeu? Ils firent naufrage et échappèrent à la mort après les plus terribles aventures qu'en sautant sur le dos d'une baleine. Aussitôt qu'ils y furent, ils tirèrent de leur poche leurs dés et leurs cornets se mirent à jouer. Voilà une histoire plus vraie que la vérité. Chaque joueur est un de ces matelots-là. Et certes, il y a dans le jeu quelque chose qui remue terriblement toutes les fibres des audacieux. Ce n'est pas une volupté médiocre de tenter le sort. Ce n'est pas un plaisir sans ivresse que de goûter en une seconde des mois, des années, toute une vie de crainte et d'espérance. Je n'avais pas 10 ans quand M. Grépinet, mon professeur de 9e, nous lut en classe la fable de l'homme et le génie. Pourtant, je me le rappelle mieux que si je l'avais entendu hier. Un génie donne à un enfant un peloton de fil et lui dit « Ce fil est celui de tes jours, prends-le. Quand tu voudras que le temps s'écoule pour toi, tire le fil. Tes jours se passeront rapides ou lents selon que tu auras dévidé le peloton vite ou longuement. Tant que tu ne toucheras pas au fil, tu resteras à la même heure de ton existence. » L'enfant prit le fil, il le tira d'abord pour devenir un homme, puis pour épouser la fiancée qu'il aimait, puis pour voir grandir ses enfants, pour atteindre les emplois, le gain, les honneurs, pour franchir les soucis, éviter les chagrins, les maladies venues avec l'âge, enfin, hélas, pour achever une vieillesse importune. Eh bien, il avait vécu 4 mois et 6 jours depuis la visite du génie. Eh bien, le jeu, qu'est-ce donc? Sinon l'art d'amener en une seconde les changements que la destinée ne produit d'ordinaire qu'en beaucoup d'heures, et même en beaucoup d'années. L'art de ramasser en un seul instant les émotions éparses dans la lente existence des autres hommes. Le secret de vivre toute une vie en quelques minutes, enfin le peloton de fil du génie. Le jeu, c'est un corps à corps avec le destin. C'est le combat de Jacob avec l'ange, c'est le pacte du docteur Faust avec le diable. On joue de l'argent. De l'argent, c'est-à-dire la possibilité immédiate, infinie. Peut-être la carte qu'on va retourner, la bille qui court, donnera aux joueurs des parcs et des jardins, des champs et de vastes bois, des châteaux élevant dans le ciel leurs tourelles pointues. Oui, cette petite bille qui roule contient en elle des hectares de bonnes terres et des toits d'ardoise dont les cheminées sculptées se reflètent dans la Loire. Elle renferme les trésors de l'art, les merveilles du goût, des bijoux prodigieux, les plus beaux corps du monde, des âmes même qu'on ne croyait pas vénales, toutes les décorations, tous les honneurs, toute la grâce et toute la puissance de la terre. Que dis-je? Elle renferme mieux que cela. Elle renferme le rêve. Et vous voulez qu'on ne joue pas? Si encore le jeu ne faisait que donner des espérances infinies, s'il ne montrait que le sourire de ses yeux verts, on l'aimerait avec moins de rage. Mais il a des ongles de diamant, il est terrible, et il donne, quand il lui plaît, la misère et la honte. C'est pourquoi on l'adore. L'attrait du danger est au fond de toutes les grandes passions. Il n'y a pas de volupté sans vertige. Le plaisir mêlé de peur enivre. Et quoi de plus terrible que le jeu? Il donne, il prend. Ses raisons ne sont point nos raisons, il est muet, aveugle et sourd. Il peut tout, c'est un dieu. C'est un dieu. Il a ses dévots et ses saints qu'il aime pour lui-même, non pour ce qu'il promet, et qu'il adore quand il les frappe. S'il les dépouille cruellement, ils en imputent la faute à eux-mêmes et non à lui. « J'ai mal joué, » disent-ils. Ils s'accusent et ne blasphèment pas. L'espèce humaine n'est pas susceptible d'un progrès indéfini. Il a fallu, pour qu'elle se développât, que la Terre fût dans certaines conditions physiques et chimiques qui ne sont point stables. Il fut un temps où notre planète ne convenait pas à l'homme. Elle était trop chaude et trop humide. Il viendra un temps où elle ne lui conviendra plus. Elle sera trop froide et trop sèche. Quand le soleil s'éteindra, ce qui ne peut manquer, les hommes auront disparu depuis longtemps. Les derniers seront aussi dénués et stupides qu'étaient les premiers. Ils auront oublié tous les arts et toutes les sciences. Ils s'étendront misérablement dans des cavernes au bord des glaciers qui rouleront alors leurs blocs transparents sur les ruines effacées des villes où maintenant on pense, on aime, on souffre, on espère. Tous les ormes, tous les tilleuls seront morts de froid et les sapins régneront seuls sur la terre glacée. Ces derniers hommes, désespérés sans même le savoir, ne connaîtront rien de nous, rien de notre génie, rien de notre amour. Et pourtant, ils seront nos enfants nouveau-nés et le sang de notre sang. Un faible reste de royale intelligence, hésitant dans leur crâne épaissi, leur conservera quelque temps encore l'empire sur les ours multipliés autour de leurs cavernes. Peuples et tribus auront disparu sous la neige et les glaces, avec les villes, les routes, les jardins du vieux monde. Quelques familles à peine subsisteront. Femmes, enfants, vieillards, engourdis pêle-mêle, verront par les fentes de leurs cavernes monter tristement sur leur tête un soleil sombre où, comme sur un tison qui s'éteint, courront des lueurs fauves, tandis qu'une lèche éblouissante d'étoiles continuera de briller tout le jour dans le ciel noir à travers l'air glacial. Voilà ce qu'ils verront. Mais dans leur stupidité, ils ne sauront même pas qu'ils voient quelque chose. Un jour, le dernier d'entre eux exhalera sans haine et sans amour, dans le ciel ennemi, le dernier souffle humain. Et la terre continuera de rouler, emportant à travers les espaces silencieux les cendres de l'humanité, les poèmes d'Homère et les augustes débris des marbres grecs attachés à ses flancs glacés. Et aucune pensée ne s'élancera plus vers l'infini, du sein de ce globe où l'âme a tant osé, au moins aucune pensée d'homme. Car qui peut dire si alors une autre pensée ne prendra pas conscience d'elle-même, et si ce tombeau où nous dormirons tous ne sera pas le berceau d'une âme nouvelle? De quelle âme, je ne sais. De l'âme de l'insecte, peut-être. À côté de l'homme, malgré l'homme, les insectes, les abeilles, par exemple, et les fourmis ont déjà fait des merveilles. Il est vrai que les fourmis et les abeilles veulent comme nous de la lumière et de la chaleur, mais il y a des invertébrés moins frileux. Qui connaît l'avenir réservé à leur travail et à leur patience? Qui sait si la terre ne deviendra pas bonne pour eux quand elle aura cessé de l'être pour nous? Qui sait s'ils ne prendront pas un jour conscience d'eux et du monde? Qui sait si à leur tour ils ne loueront pas Dieu? À Lucien Mussfeld. Nous ne pouvons nous représenter avec exactitude ce qui n'existe plus. Ce que nous appelons la couleur locale est une rêverie. Quand on voit qu'un peintre a toutes les peines du monde à reproduire d'une manière à peu près vraisemblable une scène du temps de Louis-Philippe, on désespère qu'il nous rende jamais la moindre idée d'un événement contemporain de Saint-Louis ou d'Auguste. Nous nous donnons bien du mal pour copier de vieilles armes et de vieux coffres. Les artistes d'autrefois ne s'embarrassaient point de cette vaine exactitude. Ils prêtaient aux héros de la légende ou de l'histoire le costume et la figure de leurs contemporains. Ainsi nous peignirent-ils naturellement leur âme et leur siècle. Un artiste peut-il mieux faire? Chacun de leurs personnages était quelqu'un d'entre eux. Et ces personnages, animés de leur vie et de leur pensée, restent jamais touchants. Ils portent à l'avenir témoignage de sentiments éprouvés et d'émotions véritables. Des peintures archéologiques ne témoignent que de la richesse de nos musées. Si vous voulez goûter l'art vrai et ressentir devant un tableau une impression large et profonde, regardez les fresques du Ghirlandajo à Santa Maria Novella de Florence, la naissance de la Vierge. Le vieux peintre nous montre la chambre de la couchée. Anne, soulevée sur son lit, n'est ni belle ni jeune, mais on voit tout de suite que c'est une bonne ménagère. Elle a rangé au chevet de son lit un pot de confiture et deux grenades. Une servante, debout à la ruelle, lui présente un vase sur un plateau. On vient de laver l'enfant et le bassin de cuivre est encore au milieu de la chambre. Maintenant, la petite Marie boit le lait d'une belle nourrice. C'est une dame de la ville, une jeune mère, qui a voulu gracieusement offrir le sein. L'enfant de son ami, afin que cet enfant ait le sien, ayant bu la vie aux mêmes sources, en gardent le même goût et, par la force de leur sang, s'aiment fraternellement. Près d'elle, une jeune femme qui lui ressemble, ou plutôt une jeune fille, sa sœur peut-être, richement vêtue, le front découvert et portant des nattes sur les tempes comme Emilia Pia, étend les deux bras vers le petit enfant avec un geste charmant où se trahit l'éveil de l'instinct maternel. Deux nobles visiteuses, habillées à la mode de Florence, entrent dans la chambre. Elles sont suivies d'une servante qui porte sur la tête des pastèques et des raisins, et cette figure d'une ample beauté drapée à l'antique, ceinte d'une écharpe flottante, apparaît dans cette scène domestique et pieuse comme je ne sais quel rêve païen. Eh bien, dans cette chambre tiède, sur ces doux visages de femmes, je vois toute la belle vie florentine et la fleur de la première Renaissance. Le fils de l'orfèvre, le maître des premières heures, a dans sa peinture, claire comme l'aube d'un jour d'été, révélé tout le secret de cet âge courtois dans lequel il eut le bonheur de vivre et dont le charme était si grand que ses contemporains eux-mêmes s'écriaient « Dieu bon, le bienheureux siècle !» L'artiste doit aimer la vie et nous montrer qu'elle est belle sans lui. Nous en douterions. L'ignorance est la condition nécessaire, je ne dis pas du bonheur, mais de l'existence même. Si nous savions tout, nous ne pourrions pas supporter la vie une heure. Les sentiments qui nous la rendent douce ou du moins tolérable naissent d'un mensonge et se nourrissent d'illusions. Si possédant comme Dieu la vérité, l'unique vérité, un homme la laissait tomber de ses mains, le monde en serait anéanti sur le coup et l'univers se dissiperait aussitôt comme une ombre. La vérité divine, ainsi qu'un jugement dernier, le réduirait en poudre. Au vrai jaloux, tout porte ombrage, tout est sujet d'inquiétude. Une femme le trahit déjà seulement parce qu'elle vit et qu'elle respire. Il redoute ses travaux de la vie intérieure, ces mouvements divers de la chair et de l'âme qui font de cette femme une créature distincte de lui-même, indépendante, instinctive, douteuse et parfois inconcevable. Il souffre de ce qu'elle fleurit elle-même comme une belle plante, sans qu'aucune puissance d'amour puisse retenir et prendre tout ce qu'elle répand au monde de parfums dans ce monde agité qui est la jeunesse et la vie. Au fond, il ne lui reproche rien, sinon qu'elle est. C'est là ce qu'il ne saurait supporter paisiblement. Elle est, elle vit, elle est belle, elle songe. Mais quel sujet d'inquiétude mortelle! Il veut toute cette chair, il la veut plus et mieux que n'a permis la nature et toute. La femme n'a pas cette imagination. Le plus souvent, ce qu'on prend chez elle pour de la jalousie, c'est la rivalité. Mais quant à cette torture des sens, à cette hantise des apparitions odieuses, à cette fureur imbécile et lamentable, à cette rage physique, elle ne la connaît point ou ne la connaît guère. Son sentiment dans ce cas est moins précis que le nôtre. Une sorte d'imagination n'est pas très développée en elle, même dans l'amour et dans l'amour sensuel. C'est l'imagination plastique, le sens précis des figures. Un grand vague enveloppe ses impressions, et toutes ses énergies restent tendues pour la lutte. Jalouse, elle combat avec une opiniâtreté mêlée de violence et de ruse, dont l'homme est incapable. Ce même aiguillon qui nous déchire les entrailles l'excite à la course. Dépossédée, elle lutte pour l'empire et pour la domination. Aussi la jalousie, qui chez l'homme est une faiblesse, est une force chez la femme, et la pousse aux entreprises. Elle en tire moins de dégoût que d'audace. Voyez l'Hermione de Racine. Sa jalousie ne s'exhale pas en noire fumée. Elle a peu d'imagination. Elle ne fait point de ses tourments un poème plein d'images cruelles. Elle ne le rêve pas. Et qu'est-ce que la jalousie sans le rêve? Qu'est-ce que la jalousie sans l'obsession et sans une espèce de monomanie furieuse? Hermione n'est pas jalouse. Elle s'occupe d'empêcher un mariage. Elle veut empêcher à tout prix et reprendre un homme ou rien de plus. Et quand cet homme est tué pour elle, par elle, elle est étonnée. Elle est surtout attrapée. C'est un mariage manqué. Un homme se place, à sa place se fût écrié. Bah, tant mieux, cette femme que j'aimais, personne ne l'aura. Le monde est frivole et vain, tant qu'il vous plaira. Pourtant, ce n'est point une mauvaise école pour un homme politique. Et l'on peut regretter qu'on en ait si peu l'usage aujourd'hui dans nos parlements. Ce qui fait le monde, c'est la femme. Elle y est souveraine. Rien ne s'y fait que par elle et pour elle. Or, la femme est la grande éducatrice de l'homme. Elle lui enseigne les vertus charmantes, la politesse, la discrétion et cette fierté qui craint d'être importune. Elle montre à quelques-uns l'art de plaire et à tous l'art utile de ne pas déplaire. On apprend d'elle que la société est plus complexe et d'une ordonnance plus délicate qu'on ne l'imagine communément dans les cafés politiques. Enfin, on se pénètre près d'elle de cette idée que les rêves du sentiment et les ombres de la foi sont invincibles et que ce n'est pas la raison qui gouverne les hommes. Le comique est vite douloureux quand il est humain. Est-ce que Don Quichotte ne vous fait pas quelquefois pleurer? Je goûte beaucoup pour ma part quelques livres d'une sereine et riante désolation, comme cet incomparable Don Quichotte ou comme Candide, qui sont allés bien prendre des manuels d'indulgence et de pitié, des bibles de bienveillance. L'art n'a pas la vérité pour objet. Il faut demander la vérité aux sciences, parce qu'elle est leur objet. Il ne faut pas la demander à la littérature, qui n'a et ne peut avoir d'objet que le beau. La Chloé du roman grec ne fut jamais une vraie bergère. et son Daphnis ne fut jamais un vrai chevalier. Pourtant, ils nous plaisent encore. Le grec subtil qui nous conta leur histoire ne se souciait point des tables ni de boucs. Il n'avait souci que de poésie et d'amour. Et comme il voulait montrer, pour le plaisir des citadins, un amour sensuel et gracieux, il mit cet amour dans les champs où ses lecteurs n'allaient point, car c'étaient de vieux Byzantins blanchis au fond de leur palais, au milieu de féroces mosaïques, ou derrière le comptoir sur lequel ils avaient amassé de grandes richesses. Afin d'égayer ces vieillards mornes, le conteur leur montra deux beaux enfants. Et pour qu'on ne confondît point son Daphnis et sa Chloé avec les petits polissons et les fillettes vicieuses qui foisonnent sur le pavé des grandes villes, il prit soin de dire « Ceux dont je vous parle vivaient autrefois à Lesbos, et leur histoire fut peinte dans un bois consacré aux nymphes. » Il prenait l'utile précaution que toutes les bonnes femmes ne manquent jamais de prendre avant de faire un conte quand elles disent « Autant que Berthe filait » ou « Quand les bêtes parlaient ». Si l'on veut vous dire une belle histoire, il faut bien sortir un peu de l'expérience et de l'usage. Nous mettons l'infini dans l'amour. Ce n'est pas la faute des femmes. Je ne crois pas que 1200 personnes assemblées pour entendre une pièce de théâtre forment un concile inspiré par la sagesse éternelle. Mais le public, ce me semble, apporte ordinairement au spectacle une naïveté de cœur et une sincérité d'esprit qui donnent quelque valeur aux sentiments qu'il éprouve. Bien des gens à qui il est impossible de se faire une idée de ce qu'ils ont lu sont en état de rendre un compte assez exact de ce qu'ils ont vu représenté. Quand on lit un livre, on le lit comme on veut. On en lit, ou plutôt on y lit, ce qu'on veut. Le livre laisse tout à faire à l'imagination. Aussi les esprits rudes et communs n'y prennent-ils pas pour la plupart qu'un pâle et froid plaisir. Le théâtre, au contraire, fait tout voir et dispense de rien imaginer. C'est pourquoi il contente le plus grand nombre. C'est aussi pourquoi il plaît médiocrement aux esprits rêveurs et méditatifs. Ceux-là n'aiment les idées que pour le prolongement qu'il leur donne et pour l'écho mélodieux qu'elles éveillent en eux-mêmes. Ils n'ont que faire dans un théâtre et préfèrent au plaisir passif du spectacle la joie active de la lecture. Qu'est-ce qu'un livre ? Une suite de petits signes, rien de plus. C'est au lecteur à tirer lui-même les formes, les couleurs et les sentiments auxquels ces signes correspondent. Il dépendra de lui que ce livre soit terne ou brillant, ardent ou glacé. Enfin, je dirais, si vous préférez, que chaque mot d'un livre est un doigt mystérieux qui effleure une fibre de notre cerveau comme la corde d'une harpe et éveille ainsi une note dans notre âme sonore. En vain, la main de l'artiste sera inspirée et savante. Le son qu'elle rendra dépend de la qualité de nos cordes intimes. Il n'en est pas tout à fait de même du théâtre. Les petits signes noirs y sont remplacés par des images vivantes. Au fin caractère d'imprimerie qui laisse tant à deviner, sont substitués des hommes et des femmes qui n'ont rien de vague ni de mystérieux. Le tout est exactement déterminé. Il en résulte que les impressions reçues par les spectateurs sont aussi peu dissemblables que possible, eu égard à la fatale diversité des sentiments humains. Aussi voit-on, dans toutes les représentations, que des querelles littéraires ou politiques ne trouvent le point, une véritable sympathie s'établir entre tous les assistants. Si l'on considère d'ailleurs que le théâtre est l'art qui s'éloigne le moins de la vie, On reconnaîtra qu'il est le plus facile à comprendre et à sentir, et l'on en conclura que c'est celui sur lequel le public est le mieux d'accord et ne se trompe le moins. Que la mort nous fasse périr tout entier, je n'y contredis point. Cela est fort possible. En ce cas, il ne faut pas la craindre. Je suis, elle n'est pas. Elle est, je ne suis plus. Mais si, tout en nous frappant, elle nous laisse subsister, soyez bien sûr que nous nous retrouverons au-delà du tombeau, tels absolument que nous étions sur la terre. Nous en serons sans doute fort penauds. Cette idée est de nature à nous gâter par avance le paradis et l'enfer. Elle nous ôte toute espérance, car ce que nous souhaitons le plus, c'est de devenir tout autre que nous ne sommes. Mais cela nous est bien défendu. Il y a un petit livre allemand qui s'appelle « Notes à ajouter au livre de la vie » et qui est signé Gerhard Damintor, livre assez vrai, et par conséquent assez triste, où l'on va décrire la condition ordinaire des femmes. C'est dans les soucis quotidiens que la mère de famille perd sa fraîcheur et sa force et se consume jusqu'à la moelle de ses os. L'éternel retour de la question « Que faut-il faire cuire aujourd'hui ?» L'incessante nécessité de balayer le plancher, de battre, de brosser les habits, d'épousseter. Tout cela, c'est la goutte d'eau dont la chute constante finit par ronger lentement, mais sûrement, l'esprit aussi bien que le corps. C'est devant le fourneau de cuisine que, par une magie vulgaire, la petite créature blanche et rose, au rire de cristal, se change en une momie noire et douloureuse. Sur l'autel fumeux où mijote le pot-au-feu sont sacrifiés jeunesse, liberté, beauté, joie. Ainsi s'exprime à peu près Gerhard Damintor. Tel est le sort, en effet, de l'immense majorité des femmes. L'existence est dure pour elles comme pour l'homme. Et si l'on recherche aujourd'hui pourquoi elle est si pénible, on reconnaît qu'il n'en peut être autrement sur une planète où les choses indispensables à la vie sont rares, d'une production difficile ou d'une extraction laborieuse. Des causes si profondes et qui dépendent de la figure même de la Terre, de sa constitution, de sa flore et de sa faune, sont malheureusement durables et nécessaires. Le travail, avec quelque équité qu'on le puisse répartir, pèsera toujours sur la plupart des hommes et sur la plupart des femmes, et peu d'entre elles auront le loisir de développer leur beauté et leur intelligence dans des conditions esthétiques. La faute en est à la nature. Cependant, alors que devient l'amour ? Oh, il devient ce qu'il peut. La faim est sa grande ennemie, et c'est un fait incontestable que les femmes ont faim. Il est probable qu'au XXe siècle, comme au XIXe, elles feront la cuisine, à moins que le socialisme ne ramène l'âge d'or. Les chasseurs dévoraient leurs proies, encore chaudes et où Vénus, dans les forêts, unissait les amants. Alors la femme était libre. Je vais vous dire, si j'avais créé l'homme et la femme, je les aurais formés sur un type très différent de celui qui a prévalu et qui est celui des mammifères supérieurs. J'aurais fait les hommes et les femmes, non point à la ressemblance des grands singes, comme ils sont en effet, mais à l'image des insectes, qui après avoir vécu chenilles, se transforment en papillons et n'ont au terme de leur vie d'autre souci que d'aimer et d'être beaux. J'aurais mis la jeunesse à la fin de l'existence humaine. Certains insectes ont dans leur dernière métamorphose des ailes et pas d'estomac. Ils ne renaissent sous cette forme épurée que pour aimer une heure et mourir. si j'étais un dieu, ou plutôt un démiurge, car la philosophie alexandrine nous enseigne que ces minimes ouvrages sont plutôt l'affaire du démiurge ou simplement de quelques démons constructeurs. Bon, si donc j'étais démiurge ou démon, ce sont ces insectes que j'aurais pris pour modèle de l'homme. J'aurais voulu que, comme eux, l'homme accomplit d'abord à l'état de larve les travaux dégoûtants par lesquels il se nourrit. En cette phase, il n'y aurait point eu de sexe et la faim n'aurait point avili l'amour. Puis j'aurais fait en sorte que, dans une transformation dernière, l'homme et la femme, déployant des ailes étincelantes, vécussent de rosée, de désir, et mourussent dans un baiser. J'aurais de la sorte donné à leur existence mortelle l'amour, en récompense et pour couronne. Et cela aurait été mieux ainsi. Mais je n'ai pas créé le monde, et le démiurge qui s'en est chargé n'a pas pris mes avis. Je doute entre nous qu'il ait consulté les philosophes et les gens d'esprit. C'est une grande erreur de croire que les vérités scientifiques diffèrent essentiellement des vérités vulgaires. Elles n'en diffèrent que par l'étendue et la précision. Au point de vue pratique, c'est là une différence considérable. Mais il ne faut pas oublier que l'observation du savant s'arrête à l'apparence et au phénomène, sans jamais pouvoir pénétrer la substance, ni rien savoir de la véritable nature des choses. Un œil armé du microscope n'en est pas moins un œil humain. Il voit plus que les autres yeux, mais il ne voit pas autrement. Le savant multiplie les rapports de l'homme avec la nature, mais il lui est impossible de modifier en rien le caractère essentiel de ces rapports. Il voit comment se produisent certains phénomènes qui nous échappent, mais il lui est interdit aussi bien qu'à nous de rechercher pourquoi ils se produisent. Demander une morale à la science, c'est s'exposer à de cruels mécomptes. On croyait, il y a 300 ans, que la Terre était le centre de la création. Nous savons aujourd'hui qu'elle n'est qu'une goutte figée du Soleil. Nous savons quel gaz brûle à la surface des plus lointaines étoiles. Nous savons que l'univers dans lequel nous sommes une poussière errante enfante et dévore dans un perpétuel travail. Nous savons qu'il naît sans cesse et qu'il meurt des astres. Mais en quoi notre morale a-t-elle été changée par de si prodigieuses découvertes? Les mères en ont-elles mieux ou moins bien aimé leurs petits-enfants? En sentons-nous plus ou moins la beauté des femmes? Le cœur en bat-il autrement dans la poitrine des héros? Non, non, que la terre soit grande ou petite, il n'importe à l'homme. Elle est assez grande pourvu qu'on y souffre, pourvu qu'on y aime. La souffrance et l'amour, voilà les deux sources jumelles de son inépuisable beauté. La souffrance, mais quelle divine méconnue! Nous lui devons tout ce qu'il y a de bon en nous, tout ce qui donne du prix à la vie. Nous lui devons la pitié, nous lui devons le courage, nous lui devons toutes les vertus. La terre n'est qu'un grain de sable dans le désert infini des mondes. Mais si l'on ne souffre que sur la terre, elle est plus grande que tout le reste du monde. Que dis-je? Elle est tout, et le reste n'est rien. Car ailleurs il n'y a ni vertu ni génie. Qu'est-ce que le génie sinon l'art de charmer la souffrance? C'est sur le sentiment seul que la morale repose naturellement. Oh, de très grands esprits ont nourri, je le sais, d'autres espérances. Renan s'abandonnait volontiers en souriant au rêve d'une morale scientifique. Il avait dans la science une confiance à peu près illimitée. Il croyait qu'elle changerait le monde, parce qu'elle perce les montagnes. Je ne crois pas, comme lui, qu'elle puisse nous diviniser. À vrai dire, je n'en ai guère l'envie. je ne sens pas en moi l'étoffe d'un dieu, si petit qu'il soit. Ma faiblesse, mes chers, je tiens à mon imperfection comme à ma raison d'être. Il y a une petite toile de Jean Béraud qui m'intéresse étrangement. C'est la salle Graffard, une réunion publique où l'on voit fumer les cerveaux avec les pipes et les lampes. La scène sans doute tourne au comique, mais combien ce comique est profond et vrai, combien il est mélancolique. Il y a dans cet étonnant tableau une figure qui me fait mieux comprendre elle seule l'ouvrier socialiste que 20 volumes d'histoire et de doctrine, celle de ce petit homme chauve tout en crâne sans épaules qui siège au bureau dans son cache-nez, un ouvrier d'art sans doute et un homme à idées, maladif et sans instinct, l'ascète du prolétariat, le saint de l'atelier, chaste et fanatique comme les saints de l'Église aux premiers âges. Certes, celui-là est un apôtre, et on sent à le voir qu'une religion nouvelle est née dans le peuple. Un géologue anglais, de l'esprit le plus riche et le plus ouvert, Sir Charles Lyell, a établi, il y a 40 ans environ, ce qu'on nomme la théorie des causes actuelles. Il a démontré que les changements survenus dans le cours des âges sur la face de la Terre n'étaient pas dus, comme on le croyait, à des cataclysmes soudains, mais qu'ils étaient l'effet de causes insensibles et lentes qui ne cessent point d'agir encore aujourd'hui. Et à le suivre, on voit que ces grands changements, dont les vestiges étonnent, ne semblent si terribles que par le raccourci des âges, et qu'en réalité ils s'accomplirent très doucement. C'est sans fureur que les mœurs changèrent de lit, et que les glaciers descendirent dans les plaines, couvertes autrefois de fougères arborescentes. Des transformations semblables s'accomplissent sous nos yeux sans que nous puissions même nous en apercevoir. Là, enfin, où Cuvier voyait d'épouvantables bouleversements, Charles Lyell nous montre la lenteur clémente des forces naturelles. On sent combien cette théorie des causes actuelles serait bienfaisante si on pouvait la transporter du monde physique au monde moral et en tirer des règles de conduite. L'esprit conservateur et l'esprit révolutionnaire y trouveraient un terrain de conciliation. Persuadé qu'il reste insensible quand il s'opère d'une manière continue, le conservateur ne s'opposerait plus aux changements nécessaires de peur d'accumuler des forces destructives à l'endroit même où il aurait placé l'obstacle. Et le révolutionnaire, de son côté, renoncerait à solliciter imprudemment des énergies qu'il saurait être toujours actives. Plus j'y songe et plus je me persuade que, si la théorie morale des causes actuelles pénétrait dans la conscience de l'humanité, elle transformerait tous les peuples de la Terre en une république de sages. La seule difficulté est de l'y introduire, et il faut convenir qu'elle est grande. Je viens de lire un livre dans lequel un poète philosophe nous montre des hommes exempts de joie, de douleur et de curiosité. Au sortir de cette nouvelle terre d'utopie, quand de retour sur la terre, on voit autour de soi des hommes lutter, aimer, souffrir. Comme on se prend à les aimer et comme on est content de souffrir avec eux. Comme on sent bien que là seulement est la véritable joie. Elle est dans la souffrance, comme le baume est dans la blessure de l'arbre généreux. Ils ont tué la passion et du même coup ils ont tout tué. Joie et douleur, souffrance et volupté, bien, mal, beauté, tout enfin. Et surtout la vertu. Ils sont sages, et pourtant ils ne valent plus rien, car on ne vaut que par l'effort. Qu'importe que leur vie soit longue s'ils ne l'emplissent pas, s'ils ne la vivent pas. Ce livre fait beaucoup pour me rendre cher, par réflexion, cette condition d'homme qui cependant est dure, et pour me réconcilier avec cette douloureuse vie, pour me ramener enfin à l'estime de mes semblables et à la grande sympathie humaine. Ce livre a cela d'excellent qu'il fait aimer la réalité et met en garde contre l'esprit de chimère et d'illusion. En nous montrant des êtres exempts de maux, il nous fait comprendre que ces tristes bienheureux ne nous égalent pas et que ce serait une grande folie que de quitter, à supposer que cela fût possible, notre condition pour la leur. Oh, le misérable bonheur que celui-là! N'ayant plus de passion, ils n'ont pas d'art. Et comment auraient-ils des poètes? Ils ne sauraient goûter ni la muse épique qui s'inspire des fureurs de la haine et de l'amour, ni la muse comique qui rit en cadence des vices et des ridicules des hommes. Ils ne peuvent plus imaginer les Didons et les Phèdres, les malheureux. Ils ne voient plus ces ombres divines qui passent en frissonnant sous les myrtes immortelles. Ils sont aveugles et sourds au miracle de cette poésie qui divinise la terre des hommes. Ils n'ont pas Virgile, et on les dit heureux parce qu'ils ont des ascenseurs. Pourtant, un seul beau vers a fait plus de bien au monde que tous les chefs-d'œuvre de la métallurgie. Inexorable progrès! Ce peuple d'ingénieurs n'a plus ni passion, ni poésie, ni amour. Hélas, comment seraient-ils aimés puisqu'ils sont heureux? L'amour ne fleurit que dans la douleur. Qu'est-ce que les aveux des amants sinon des cris de détresse? Que Dieu serait misérable à ma place, s'écrit dans un élan d'amour le héros d'un poète anglais. Un Dieu, ma bien-aimée, ne pourrait pas souffrir, ne pourrait pas mourir pour toi. Pardonnons à la douleur. Et sachons bien qu'il est impossible d'imaginer un bonheur plus grand que celui que nous possédons en cette vie humaine, si douce et si amère, si mauvaise et si bonne, à la fois idéale et réelle, et qui contient toutes choses et concilie tous les contrastes. Là est notre jardin qu'il faut bêcher avec zèle.